14 700 emplois vont disparaître en Amérique du Nord, des emplois chez General Motors. 4 usines aux États-Unis vont fermer et celle d'Oshawa en Ontario fermera en décembre 2019, donc dans un an. Il y aura 8000 cadres, des collets blancs, si on veut, qui vont accepter une indemnité de départ volontaire et environ 6000 travailleurs des chaînes de montage qui seront touchés au Canada et aux États-Unis, Marie-France.
Oui, exactement. Et ce ne sont pas que, et encore, ça fait drôle à dire, les 2522 employés d'Oshawa qui vont être touchés, mais et leur famille dévastée, mais tous ceux qui travaillaient autour des milliers de fournisseurs dont la job dépendait de l'usine d'Oshawa. C'est donc une nouvelle dévastatrice pour les travailleurs, pour les familles. Et on sait que, on connaît ça dans la région de Montréal. Hein. Je te rappellerai GM à Boisbriand, qui a été active de 1965 à 2001, date de la fermeture, où 1200 travailleurs avaient perdu leur job, des sous-traitants qui avaient subi l'impact de plein fouet. Et toute la région s'était construite, développée, structurée avec l'usine de la GM. Aujourd'hui, c'est devenu un centre commercial. Évidemment, ça n'a pas le même impact économique. Ce ne sont plus des jobs. Écoute, à l'époque, c'était de 23 à 30 $ de l'heure. C'était vraiment de très bons emplois. Donc, les gens d'Oshawa vont vivre la même chose. Il y a eu des signaux d'alarme. Tes différents interlocuteurs qui t'ont parlé de ce dossier, Paul, te l'ont dit. C'est une industrie automobile qui change. Les modèles classiques, les berlines sont en chute vertigineuse. Recentrage vers les autos électriques et les voitures autonomes. On sait que les milléniaux n'ont plus de permis de conduire pour la plupart. Ils ont une nouvelle manière d'utiliser l'auto, l'autopartage également. Même les travailleurs chez GM, le travail change de plus en plus. On engage des gens qui ont une formation en informatique. On s'en va vers ces voitures de demain. Il y a eu des offres de retraite anticipée en octobre, pas plus loin qu'en octobre, à travers le monde, aux employés de GM, des milliers qui se sont fait offrir la retraite anticipée. Il y a donc une volonté de restructurer qui était là. Et il y a eu cette crise majeure économique en 2008-2009 dans la folie des subprimes et l'industrie automobile GM et Chrysler. Tu te souviens?
Écoute, je m'en souviens. J'étais en onde ici un après-midi à cette heure-là avec le chroniqueur financier de l'époque, c'était René Vézina.
Oui.
Et on était tous les deux abasourdis. L'action de GM venait de tomber sous les 1 $.
Exactement.
La compagnie ne valait plus rien.
Ne valait plus rien et on se rappellera qu'ils ont été, GM et Chrysler, sauvés de la faillite par le gouvernement américain et canadien. Au Canada, 17 milliards de dollars à GM et Chrysler. Il y a un mois d'ailleurs, on a effacé le reste du prêt à Chrysler. En 2014, on avait récupéré 45 % de la mise seulement. Donc, il y a eu des symptômes, il y a eu des avertissements, le rapport à l'auto qui a changé, la place de l'auto dans la société, la technologie qui évolue. C'est vraiment une industrie manufacturière dont le cycle actuel tire à sa fin. Et c'est pour ça que les spécialistes n'ont pas été si surpris que ça. Jusqu'à un certain point, ils attendaient cette restructuration. Et c'est plate à dire, mais il y a peu d'espoir de retenir ou de renflouer ce qui restera à Oshawa, parce que c'est vraiment vers un autre type d'auto qu'on s'en va.
Ah oui, et c'est sûr.
Exactement. Et c'est la même chose aux États-Unis. C'est pas parce qu'ils s'en vont aux États-Unis. Tu l'as dit en introduction, 4 usines vont fermer aux États-Unis. Là aussi, ça va faire mal. Et on se dit souvent que est-ce que les politiciens peuvent faire quelque chose? Ils se sont, dans ce cas-ci, fait prendre vraiment, ils se sont fait déculoter. Et pourtant, comme je te dis, les spécialistes ne sont pas surpris. Il y avait plein de signes avant-coureurs. Il va falloir dorénavant, et il y a une campagne électorale qui s'en vient, qui commence au Canada, il va falloir que les politiciens soient plus inspirés, voient plus en amont. Je reviens à Bernard Landry, dont souligné les funérailles il y a une semaine à peine, et qui avait eu, on a beaucoup rappelé, qu'il avait eu cette vision, la cité du multimédia à Montréal, et il avait mis en place des outils de développement du numérique à Montréal, et on voit aujourd'hui, des années après, ce que ça donne. Dorénavant, on va demander à nos dirigeants de voir les cycles de l'économie avec 2 trains d'avance. Il faut faire ça parce que c'est pas juste l'auto qui arrive à termes comme industrie traditionnelle. Il y a plein d'autres secteurs et il faut qu'on continue à développer.
Et Marie-France, si tu me permets, tu parles de Bernard Landry, tu ouvres une parenthèse extrêmement intéressante. Rappelle-toi qu'il y a un parallèle, l'usine de Paccard, qui allait fermer justement à Sainte-Thérèse, ou enfin juste à
côté. Qui avait remplacé le GM brièvement.
Et
oui.
On avait reproché à Bernard Landry une tentative de sauvetage de ce qu'on pouvait appeler un panier percé, étant donné que la décision avait été prise à Seattle. Mm-hmm. Eh bien, il est allé se battre.
Oui.
À Seattle, on dit, ah bon, ben d'accord, on laisse l'usine. Et aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, elle fonctionne très bien,
oui,
avec
exactement.
De très bons emplois.
Oui, ben voilà un politicien qui avait eu de la vision et du flair. Et dorénavant, je te dis, c'est ce qu'on va demander à nos politiciens. Et je terminerai sur GM en te disant ce que je ne pensais jamais dire. J'ai aujourd'hui une sympathie minimale pour Doug Ford.
Minimal. Mais oui, pour une autre raison. Bon,
oui.
La caravane de migrants est arrivée. On savait, plus ils s'approchaient de la frontière qui est celle du sud, extrême sud-ouest de la Californie, donc la région de San Diego et de Tijuana.
Exactement.
Et voilà qu'en fin de semaine, on a assisté à des scènes chaotiques un peu, où 500 migrants ont tenté de franchir la frontière américaine à Tijuana. Et ont été repoussés.
Oui, et ce ne sont pas les mêmes que de la caravane de migrants. Ce sont eux aussi, ils viennent d'Amérique centrale, mais les deux phénomènes se rejoignent. Et les forces de l'ordre, donc, ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc. La frontière a été, c'est phénoménal, là. La frontière a été brièvement fermée et Trump a tweeté, a tempêté et il a menacé de fermer plus longuement la frontière. Il a demandé aux Mexicains, d'ailleurs, de stopper les caravanes de migrants et il a demandé aux pays d'origine de ne pas les laisser se former. Il a émis un décret pour rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par les illégaux. Il y a un accord qui aurait été négocié avec le Mexique pour que les migrants y restent pendant que leur demande d'asile sera examinée par les États-Unis. Il a dépêché des militaires à la frontière. Actuellement, ils sont 9000, en plus des milices civiles, des citoyens ordinaires, entre guillemets, qui se sont lourdement armés. Il menace de fermer totalement la frontière. Il a toujours, le même Trump, invoqué l'invasion de migrants, de criminels et de personnes du Moyen-Orient qui se seraient glissées dans la caravane. Et il faut dire que la justice a bloqué le décret et ça a entraîné évidemment la colère du président en disant il ne peut pas réécrire les lois sur l'immigration pour imposer des conditions que le Congrès a expressément interdites, c'est-à-dire de reconsidérer le droit d'asile. Il y a là-dedans, Paul, une vision de l'histoire des États-Unis. Il y a au cœur de l'histoire des États-Unis l'idée de l'accueil des immigrants. Tu as certainement déjà visité à New York Ellis Island, qui était le port d'entrée de...
Et Liberty Island.
Exactement, qui était vraiment l'entrée des immigrants européens pendant des dizaines d'années. Il y a cette tradition d'accueil des réfugiés aux frontières. Quand un pays envoie l'armée à sa frontière pour mater des migrants qui sont en très, très grande majorité, puis on entend leurs histoires dernièrement dans des reportages, du pauvre monde, c'est que ce pays-là est soit très malade, soit très peu sûr de lui ou qu'il a perdu une grande part de son humanité. Alors, que faire? Les États-Unis peuvent-ils recevoir toute la misère du monde? Non, évidemment non. En même temps, il y a beaucoup d'hypocrisie. Économiquement, Trump, qui menace de fermer la frontière avec le Mexique, mais la Californie, Las Vegas, carburent au travail des migrants, des immigrants, qu'ils soient légaux ou illégaux. Je pense juste aux hôtels de Trump à Las Vegas. Grande partie du personnel qui n'a pas nécessairement ses papiers. Trump instrumentalise la question de l'immigration. La question de l'immigration, Paul, a été et reste le meilleur contraste entre lui et les démocrates. Le mur, la caravane, le servent, l'ont servi pour son élection il y a 2 ans. L'immigrant, pour lui, c'est une stratégie d'image et de symbole. Il peut sortir les militaires, il peut fermer la frontière, il peut menacer de suspendre le nouvel accord de libre-échange avec le Mexique si ce dernier ne les bloque pas, prenant sur leur dos l'odieux et tous les problèmes qui en découlent. Mais le problème est insoluble. Les migrants viennent de pays qui sont appauvris, qui sont déstructurés, des États très faibles, où d'ailleurs, souvent, les États-Unis, dans le passé, ont contribué à installer de la dictature ou à démolir la démocratie. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont livrés aux bandits,
absolument,
aux mafias qui terrorisent les populations. On parle, c'est des familles. C'est plus des hommes seuls qui viennent pour travailler aux États-Unis puis envoyer l'argent dans leur pays d'origine. Ce sont des familles avec des enfants. On voit les images. C'est absolument invivable. Et la solution n'appartient pas qu'à Donald Trump et qu'aux États-Unis. C'est vraiment un problème énorme qui se vit d'une manière particulière aux États-Unis, mais évidemment qui est un problème mondial. On le voit à toutes les frontières, ce problème-là.
On l'a vu notamment avec l'exode des citoyens de la Syrie, de la Libye aussi.
Exactement.
Ils sont capables de monter sur n'importe quel type d'embarcation. D'ailleurs, il y a des tragédies régulièrement dans la Méditerranée. Mais ce que tu viens de dire, Marie-France, rejoint exactement ce que disait la correspondante de France 24 à Mexico, à qui j'ai parlé il y a une heure, Laurence Cuvillier. Et tu as bien cerné le problème, c'est que c'est pas seulement des jeunes hommes qui tentent de sauter par-dessus la frontière pour aller travailler illégalement. Elle dit, non, c'est un phénomène nouveau. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont là, et ils sont des milliers qui sont parqués au Mexique temporairement, et le Mexique pourra pas non plus garder le statu quo.
C'est clair.
Non, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Ces gens-là craignent pas seulement pour leur qualité de vie, pour leur vie tout court dans certains cas.
Absolument.
C'est dramatique.
Merci, Marie-France.
À demain, Paul.